Les simulateurs de monde comme Civilization 2, Conquest of the New World ou Settlers 2 vous proposent de devenir le maître du monde en créant et en manipulant à volonté des univers miniatures. Deadlock, le dernier simulateur de chez Warner, vous envoie en éclaireur dans l'espace avec pour mission de construire une base et devenir le maître absolu de la galaxie. Après avoir joué les explorateurs conquérants sur la planète Terre avec Settlers 2, on va se retrouver dans Star Trek avec des vaisseaux, des planètes et des extraterrestres. Vous serez propulsé à travers la galaxie dans la peau du personnage que vous aurez choisi. Alors, alien monstrueux ou homme du futur? Contrairement à Civilization 2, Deadlock se distingue par une prise en main immédiate. On sélectionne les options directement à partir de l'écran du jeu. Comme tous ses prédécesseurs, il vous demande de montrer vos talents de bâtisseur et de fournir à la population de votre cité tout ce dont elle a besoin pour se développer. En touchant du doigt les mécanismes du pouvoir, vous verrez que créer un système qui fonctionne n'est pas si simple. Il va falloir décider des priorités, la recherche, la culture ou bien la production. Que l'on vous demande de revoir l'histoire de l'humanité dans Civilization 2 ou que l'on vous projette dans le futur pour coloniser des planètes, les réalités sont les mêmes. À chaque fois que vous prendrez une décision, celle-ci aura des conséquences parfois imprévues. C'est à vous de modeler ce monde par petites touches jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat obtenu. Si les manœuvres diplomatiques échouent, il vous restera toujours la force pour imposer votre suprématie. C'est moins satisfaisant, mais c'est efficace. Dans Conquest of the New World ou Deadlock, pour conquérir, il faut faire la guerre. Et en une seconde, on passe du comptable à lunettes au combattant sans pitié. Dans Deadlock, toutes les manipulations sont simples. On gère les déplacements des troupes à partir d'une carte en indiquant des objectifs à atteindre. Mais si du côté wargame est développé, l'ordinateur, lui, n'est pas à la hauteur. Il attend mollement sans jamais attaquer. Heureusement, l'option de jeu en réseau vient corriger ce défaut. Une pincée de Civilization 2, une pincée de Kaiser 2, plus une pincée de Conquest of the New World, et on obtient Deadlock. Un jeu qui laisse très loin derrière lui Outpost, où l'espace d'action est beaucoup plus réduit.
Apprendre les maths et la logique dans la joie et la bonne humeur, c'est possible ça ? Eh bien oui, répondent en cœur les Zombini. L'Odyssée des Zombini propose aux enfants de 8 ans et plus de découvrir l'univers merveilleux des mathématiques et de la logique. Et voilà les Zombini, ils sont petits, rigolos, tout bleus et tous différents. Il y a des Zombini à cheveux drus, à cheveux mous, les chauves, ceux qui ont des lunettes, ceux qui sont sur pattes, ceux à roulettes. Bref, toute une panoplie de détails qu'il faut bien observer. Toutes ces disparités font des Zombini d'idéal cobayes pour quelques exercices de mathématiques et de logique. Nous voilà sur Zombiniville, une petite île au milieu de l'océan. La route qui mène à Zombiniville est longue et semée d'embûches. Les petits pionniers bleus doivent déjouer des pièges à la difficulté inégale. Heureusement, deux étapes sont prévues pour reposer nos méninges.
De nombreuses épreuves vous attendent encore.
Au début de chaque série d'épreuves, les Zombini doivent être 16. Si ce n'est pas le cas, il faut retourner à Zombiniville, reconstituer une équipe et refaire les exercices qui se corsent à chaque passage. Les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des efforts accomplis. Mais lorsqu'il faut contenter pour la cinquième fois le mangeur de pizza et qu'il est chaque fois accompagné d'un nouveau comparse au goût différent, l'exercice, surtout si on l'a compris, devient lassant. Il paraît que c'est comme ça que ça rentre. Un petit conseil aux parents qui seraient tentés de jouer les fiers à bras. L'univers des Zombini semble paisible et serein, mais les épreuves sont loin d'être évidentes. Les exercices proposés s'adressent moins à la connaissance pure qu'au raisonnement, à la réflexion et à l'observation. Qualités qui ne sont pas toujours l'apanage des grands. Ah bon ? C'est déjà terminé ? Quoi ? Il faut recommencer ? Tout ça parce qu'on a oublié quelques Zombini en route ? Bon, d'accord, on va aller les rechercher. Chaque fois refaire les 12 mêmes épreuves, c'est assez crispant. D'autant plus qu'elles se compliquent à chaque passage. Dommage, car le jeu est vraiment intéressant et aurait mérité un scénario un peu plus varié. Et puis, si tous les profs de maths ressemblaient aux Zombini, qu'est-ce qu'on s'amuserait ? Et voilà pour les tout-petits, l'anniversaire de Petit Ours. Oh, mais c'est un livre ! Et un livre qui bouge !
Petit déjeuner de fête.
Et surtout, un livre qui parle. Bon, il est mignon cet ours, mais c'est un peu triste cet anniversaire qu'il s'apprête à fêter tout seul, et sur une page blanche en plus. Heureusement, ses amis arrivent, et il va passer une super journée. Mais toujours sur une page blanche. Alors on peut étudier chaque chapitre et jouer, bien sûr.
La chasse au ballon. Avec la souris, fait éclater les ballons de petit ours avant qu'ils s'envolent. Dommage.
Bonne nuit.
Et quand le livre est refermé, il faut aller se coucher.
À bientôt.
Le pilotage d'un hélicoptère est une affaire complexe qui nécessite un réel entraînement. Mais lorsque Jackie vous a proposé de faire un tour sur sa bécane, vous n'avez pas su résister. Pourtant, lorsque vous êtes rendu compte que sa bécane, c'était un ordinateur, vous étiez un peu déçu et légèrement dégoûté. Quoi, ça, un hélicoptère? Un vulgaire simulateur, oui. Et pourquoi pas une tondeuse à gazon, tant qu'on y est? En plus, il se la jouait pilote de combat, Jackie, et ça, ça vous a énervé. Quelques minutes plus tard, vous y étiez dans l'hélico, et sérieusement encore. Module d'apprentissage, navigation et pilotage, armement, l'heure et technique de combat. Tout d'un coup, vous vous sentiez un peu Tanguy et la verdure, enfin, version hélicoptère. Vous vous êtes pris au jeu, hein? Ça paraît si facile d'être un as des combats aériens sans enlever ses charentaises. Et en plus, on vous guide pas à pas. Tout y est. Les touches d'appel des fonctions, les exercices pratiques, le choix du niveau de difficulté. 2 heures plus tard, vous y étiez encore, et maintenant, vous êtes sûr que vous savez voler, hein? Et même, s'il le fallait, vous seriez prêt à aller défendre la mère patrie. Passons à la simulation maintenant. On vous propose des missions libres, choisies aléatoirement à partir d'un certain nombre de paramètres que vous devez définir. Lieu géographique, météo, heure du jour, type de mission et niveau de difficulté. Vous devenez un élément prometteur. On vous invite à participer à des opérations imaginaires de plus grande envergure. Les missions historiques respectent les faits et vous invitent à piloter d'autres appareils. AH-64D Longbow nous fait survoler des paysages 3D qui sont un peu classiques dans les simulateurs. On peut faire mieux sur les graphismes même si le temps de décompression est important. On doit reconnaître qu'en contrepartie, l'appareil réagit vite et bien au niveau des commandes et de l'animation. En tout cas, la morale de tout ça, c'est que vous avez failli crever de chaud sous le casque et que Jackie, lui, a brisé une de ses pales en sortant de la pièce.
La peinture française vue comme une invitation au voyage dans le musée du Louvre. Un voyage à thème avec pour guide un amoureux savant.
1830-40, un groupe de peintres, de paysagistes sont un petit peu là de l'enseignement de...
La cyberculture est souvent pressée. Ce programme a le temps pour lui. Son goût pour le bronze patiné des décors, la discrétion des commandes, invite à une veillée longue en bonne compagnie. Il faut d'abord prendre 5 minutes pour écouter le guide.
La petite bille bleue signale l'endroit où vous êtes sur le plan et vous permet de vous situer. Pour certaines œuvres, il est possible de visionner la palette de couleurs, ou bien encore d'étudier d'où vient la lumière.
Après, il ne s'agit que de la durée du plaisir de voir. Plaisir de flâneur dans les couloirs du Louvre, plaisir d'esthète, de toiles en thème et d'écoles en collection. Très vite, on quitte le musée virtuel presque trop matériel pour laisser librement la curiosité tracer son chemin. Tantôt attentif aux commentaires, tantôt désireux d'un écart, le promeneur devient captif d'un élégant sortilège. La voix qui lui parle au détour des galeries est fervente, heureuse de rencontrer un autre amateur de peinture française, vous. En fait, le charme est là dans une façon d'ouvrir le trajet, de laisser le désir s'égarer dans une arborescence d'images somptueusement saisies. Indexée par thème, par collection, par peintre ou par époque, la peinture est chaque fois au bout du chemin. On se laisse envahir au rythme d'un diaporama programmable et dans le battement des chefs-d'œuvre, un je ne sais quoi vous prend, le goût de la beauté. Certes, l'absence de loupe laisse quelques grandes constructions trop loin des yeux. Certes, la musique reste une pièce rapportée sans rapport véritable aux œuvres. Mais l'éditeur a fait l'effort d'adoucir l'austérité de ses précédentes collections sans rien céder de la qualité des reproductions qui fait sa marque.
L'ancienne capitale des papes, où sont venues se rencontrer la tradition italienne, celle de l'école de Sienne notamment.
Au fil de l'exploration, toute la peinture française devient une chose privée, l'ornement d'un jardin secret discrètement influencé par un expert sensible. La plus belle illusion cultivée par ce programme est celle de l'intimité raffinée qu'on croit être la nôtre quand on le quitte très tard.
La métaphysique, qu'entendez-vous par métaphysique ?
Loin des superproductions des musées nationaux, le mystère Magritte est un petit CD-ROM. Cette monographie belge est humble et discrète. Modestie des questions qui guident l'exploration dans l'univers du peintre et curiosités ouvertes, unes à une, mais sans lesquelles rien n'est possible. Les fenêtres s'ouvrent sur des tableaux qui s'ouvrent sur d'autres fenêtres. Les œuvres demeurent très lointaines, malgré la loupe, les dimensions des tableaux ne sont même pas mentionnées. De toute façon, nul n'est besoin d'approcher son œil, car ici la préoccupation n'est pas la facture du tableau ni sa composition, mais plutôt son sujet et son objet. Finalement, le mystère Magritte n'aura pas été résolu, mais un coin du voile aura été levé.
Pourquoi ne pas profiter d'un moment de détente pour faire fumer vos petites cellules grises? Il n'y a pas que les jeux de baston dans la vie. En plus, ça fera des vacances à votre manette de jeu. Deux jeux intelligents viennent de voir le jour. Commençons par découvrir la version 5000 de Chessmaster. Les habitués de la série reconnaîtront tout de suite le style Chessmaster. Toute une panoplie d'options qui ont été enrichies dans cette nouvelle version. Le joueur peut personnaliser sa partie en jouant contre des dinosaures, des insectes ou même des petits soldats. La disposition des fenêtres peut aussi être modifiée pour s'adapter aux désirs de chacun. L'intérêt de Chessmaster 5000, c'est la possibilité de se créer un adversaire qui peut avoir une personnalité différente à chaque partie. On le modèle à sa mesure, il sera agressif ou placide, très tactique ou plutôt instinctif. Bref, un joueur avec du caractère. On a la même liberté de choix pour les temps de partie ou les options de jeu. Chessmaster 5000 dispose d'une aide très complète pour les débutants et joueurs qui ont envie de se perfectionner. Cela va des conseils donnés en cours de partie jusqu'aux leçons magistrales sur les les positions de tournoi ou les parties de maître. Il est capable de rivaliser avec les meilleurs joueurs de club sans égaler pourtant la force brute de Virtual Chess. Mais la nouveauté, c'est qu'il permet d'aborder les échecs de façon naturelle. Vous aurez enfin l'impression d'affronter un cerveau humain. Et pour les plus jeunes, la Wale, jeu africain qui se joue avec des graines de baobab, la Marelle, jeu viking qui rappelle le morpion beaucoup plus subtil, et enfin le Gomoku, jeu japonais croisement entre le Go et le morpion. Ces trois jeux forment le thème de stratégie et jeu du monde et sont censés, selon l'éditeur, rendre les enfants plus intelligents. En tout cas, les petites animations et les personnages vont sûrement leur plaire. Mais la force du programme au niveau supérieur lui permet aussi de se frotter aux adultes. Pour le côté voyage, consultez la rubrique qui rappelle l'origine de ces jeux et aborde la culture locale en un diaporama commenté. Peut-on comprendre l'univers? L'adaptation sur CD-ROM du livre Une brève histoire du temps montre comment on s'est posé cette question et comment on y a répondu depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Ceux qui ont trouvé difficile le livre de Stephen Hawking peuvent le feuilleter à l'écran. De petites animations complémentaires éclairent tel ou tel paragraphe. De fait, on assimile assez vite la première partie, d'autant que Dieu se charge de ce qui est compliqué, c'est-à-dire le commencement et la fin du monde. Les savants s'occupent du milieu en faisant des dessins. On écoute les précurseurs, puis Galilée complétant Copernic et Newton fondant la gravitation. 1609, lorsque Galilée... Peu à peu, on devient comme eux, on veut savoir la suite. Alors, il vaut mieux quitter le livre et aller dans le bureau de Stephen Hawking. En fouillant un peu, on voit qu'il faut beaucoup de connaissances pour comprendre l'univers aujourd'hui. C'est qu'avec les progrès de l'observation, les théories sont à refaire. Parlons-en des théories. 11 chapitres nous rappellent ce qu'est une théorie, puis ce que signifient des mots comme espace ou temps. On se concentre vraiment quand vient le tour du mot lumière. On sort même fatigué par le cours sur le principe d'incertitude. Il est temps d'avoir une récréation. Au programme du ciné-club, la relativité, jouée par Marilyn devant un Einstein ravi. Oh yes, Marilyn, I wanna be teached by you, just you.
Dans les théories des cordes, ce que l'on pensait auparavant en termes de particules est maintenant représenté comme des ondes voyageant le long d'une corde vibrante.
C'était moins clair avec le prof. Question de physique ? En fait, le prof est bavard. On préférerait un petit peu moins de mots et un peu plus de schémas. Surtout quand on arrive au chapitre de la modernité. Dieu a pris ses distances et on se retrouve comme un étudiant qui suivrait plusieurs enseignements magistraux sans rapport évident les uns avec les autres. D'un côté, le cours sur les quarks, toutes petites particules, d'un autre, des travaux trop dirigés sur le temps, d'un troisième, un diaporama sur la forme de l'univers. On pourrait éviter les gadgets. Qu'est-ce qu'ajoute un vaisseau qui nous emmène au bord d'un trou noir pour comprendre en gros ce que c'est? Rien ne vaut les schémas et mieux encore, les animations. Avec deux ou trois animations vraiment explicites, le CD-ROM pourrait être accessible à plus de gens. Mais il nous aura montré deux choses. D'abord qu'un savant d'aujourd'hui, c'est plusieurs savants d'autrefois en même temps. Et la deuxième, c'est que pour parler de ce savant multidisciplinaire, le CD-ROM multimédia est la meilleure vulgarisation qu'on ait inventée.
On en ressort d'ailleurs étourdi entre l'électron qui peut être à deux endroits à la fois et le temps qui serait courbé et variable. La synthèse est certes encore à découvrir, mais une chose est sûre, c'est l'intelligence des hommes.